À l'écoute de Radio France Internationale, il est 23h, ici à Paris, 22h, en temps universel.
24h en France.
Et prenez donc place pour votre demi-heure consacrée à l'actualité française. Ravi de vous accueillir.
Martin Guèze.
Après l'opération PlaceNet XXL du précédent gouvernement, le nouveau s'attaque lui aussi au trafic de drogue. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice essaient ce vendredi à Marseille. Victorien Villaume les a suivis à la trace. Les anciens ministres qui se succèdent eux au Sénat devant la commission des finances. Après Bruno Le Maire hier, c'était à l'ancien chef du gouvernement Gabriel Attal de rendre des comptes sur l'explosion du déficit budgétaire. Au volet économie, l'électricité française s'exporte mieux que jamais, alors que le salon du Made in France s'est ouvert jusqu'à dimanche. Enfin, nous prendrons large, les 40 marins du Vendée Globe s'apprêtent à prendre la mer, en solitaire et sans assistance. Dans la deuxième partie de 24 ans en France, vous entendrez Kamel Daoud, tout frais prix Goncourt et invité exceptionnel de Littérature sans frontières. Nous irons au théâtre découvrir Cécile avec notre reportage à Mayotte dans le journal de l'Outre-mer et nous parlerons des 10 dans le Conseil Santé, vous comprendrez. 24 ans en France, vous avez le programme, c'est parti.
RFI.
Le gouvernement entend s'attaquer au crime organisé. La lutte contre le trafic de drogue est renforcée. Plusieurs nouvelles mesures ont été annoncées, avec donc un renforcement des effectifs ou la création d'une cellule de coordination nationale. Elle sera composée de magistrats et de représentants d'autres ministères concernés, comme l'Intérieur et les Finances, composée aussi d'analystes criminels. C'est à Marseille qu'ont été faites ces annonces. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice étaient en déplacement. Bruno Retailleau et Didier Migaud qui se sont affichés unis pour lutter contre le narcotrafic. Victorien Villaume a suivi pour RFI le déplacement des deux poids lourds du gouvernement.
Oui, exactement. Alors qu'ils affichaient plutôt leur désaccord par médias interposés il y a encore peu de temps, Didier Migaud, je le rappelle, vient de la gauche, Bruno Retailleau de la droite très conservatrice. Le mot d'ordre, c'est désormais d'afficher un exécutif uni pour la sécurité des Français. On écoute Didier Migaud.
J'avais proposé ce déplacement à Bruno Retailleau. Je suis vraiment très heureux qu'il ait accepté de venir ici et que nous puissions présenter ensemble un certain nombre de mesures.
Voilà, pour lutter contre les trafiquants, il faut faire évoluer la législation, a reconnu Didier Migaud. Le garde des Sceaux et Bruno Retailleau ont aussi bien insisté sur l'importance de faire travailler ensemble le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Alors, ont été annoncés notamment plus d'effectifs dans les tribunaux et dans la police, un nouveau parquet entièrement dédié à la criminalité organisée, mais aussi plus de souplesse judiciaire pour agir efficacement contre les trafiquants et leurs familles. Bruno Retailleau.
Il faut que le commerçant qui est véreux et qui blanchit subisse, là encore, la fermeture de son commerce. Et il faut que le voyou qui roule en gros cylindré puisse, là encore, s'expliquer sur le financement de son véhicule.
Alors que Didier Migaud est resté relativement sobre dans son propos, sans surprise, son collègue de l'Intérieur a prononcé des mots très forts, estimant que le narcotrafic représente une menace existentielle pour la France.
Victorien Villaume qui était à Marseille ce vendredi pour RFI. Autre annonce faite dans la cité phocéenne, celle de la création d'un parquet national anti-stupéfiant, comme le parquet national antiterroriste. Ce dernier pourrait rassembler toutes les affaires liées au trafic de drogue dans une seule et même enceinte judiciaire. Marie-Geoffrey Roustide est sociologue, spécialiste des politiques des drogues. Elle regrette ce côté trop répressif des mesures annoncées.
Moi, ce qui me dérange dans ce type de discours, c'est que on parle des mesures liées à la répression du trafic, mais on voit peu de résultats jusqu'à présent et en fait, on ne dit rien sur la question de la prévention de l'entrée des jeunes dans le trafic. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait aucune parole politique sur ces questions-là. Sur la question de la consommation, ce serait important d'entendre des discours plutôt qui sont sur la prise en charge, la prévention des usages et également les mesures de réduction des risques, qui, elles, ont été évaluées d'un point de vue scientifique et sont efficaces pour la prise en charge des personnes concernées. Donc, effectivement, ce sera important d'entendre un discours plus basé sur la science et les résultats probants plutôt qu'uniquement sur une idéologie moralisatrice.
Des propos recueillis au micro RFI d'Olivier Sherman. Et puis, le nouveau gouvernement, donc, à l'attaque contre le trafic de drogue. L'ancien gouvernement, lui, sur la défense. Après Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie hier, c'était aujourd'hui à Gabriel Attal, ex-premier ministre, de passer devant la commission des finances du Sénat, qui poursuit ses auditions pour tenter de comprendre comment un tel dérapage budgétaire a-t-il pu être possible dans le pays. Au lieu des 4,4% du PIB annoncé pour 2025, le déficit s'élève à 6,1%. Après son court passage à Matignon, de janvier à juillet, Gabriel Attal a surtout dû répondre de son refus de demander un projet de loi de finances rectificatif, alors que la menace d'un dérapage budgétaire incontrôlé se faisait sentir avant les élections européennes en juin dernier, Raphaël Delvolvé.
Pourquoi, lorsque Bercy sonnait l'alerte, le budget rectificatif et donc un débat parlementaire a-t-il été refusé au ministre de l'Économie ? Gabriel Attal a préféré procéder par décret ou reporter certaines économies à l'année suivante. Il s'explique.
Ça laissait du temps parlementaire supplémentaire pour examiner des textes, projet de loi sur le logement, le projet de loi sur la fin de vie.
En face, les sénateurs doutent. Un débat au Parlement sur un grave dérapage des finances publiques n'était pas dans l'intérêt du camp présidentiel juste avant les élections européennes. Gabriel Attal rejette cet argument.
Si la boussole, c'était les élections européennes, on n'aurait pas annulé 10 milliards d'euros de crédit en février. On n'aurait pas annoncé une réforme de l'assurance chômage en avril et en mai.
Au fil de la discussion, le nom du président Macron émerge. N'est-ce pas lui après tout qui a forcé la décision? Gabriel Attal reconnaît l'implication du chef de l'État, mais l'assure, les arbitrages sont les siens.
Évidemment qu'on échange avec le président de la République, mais je ne peux pas dire que c'est lui qui a pris des arbitrages, ça serait un peu facile de ma part de faire ça.
Façon également de faire vivre un bilan lors de son court passage à Matignon.
Ce que j'espère, c'est que vous reconnaîtrez, ou que ceux qui nous regardent reconnaîtront, qu'on a fait des choses bien, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Je n'ai pas d'exemple de premiers ministres qui ont annulé 10 milliards d'euros de crédit en cours d'année après sa nomination, ça ne m'a pas rendu populaire.
Comme Bruno Le Maire hier, il ne manquera d'ailleurs pas non plus de critiquer les choix budgétaires de son successeur, Michel Barnier.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI.
24 heures en France.
Dans l'actualité économique, voilà un record qui n'avait plus été battu depuis plus de 20 ans. Celui des exportations nettes d'électricité française qui devrait donc atteindre cette année un niveau historique. La France fournisseuse pour ses voisins européens, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique en tête. Mais aussi l'Espagne, un succès dû à une électricité parmi les moins chères du continent. Mais paradoxalement, Nathanaël Vitran, le prix de l'électricité en France reste lui très élevé.
Oui, la France s'attend à exporter cette année 90 TWh d'électricité, 90 milliards de kWh. Le record de 77 TWh établi en 2002 est déjà quasiment battu avant même l'entrée dans l'hiver. Deux explications. D'abord, la production nucléaire française est repartie après deux années, 2022 et 2023, pendant lesquelles la moitié des réacteurs étaient à l'arrêt pour des problèmes de maintenance. Ensuite, les Français ont moins consommé cette année. Les réflexes d'économie acquis dans la douleur pendant la crise énergétique ont perduré. Enfin, les difficultés de l'industrie entrent aussi en jeu. Une usine qui ferme, c'est une usine qui ne consomme pas. Pour autant, l'électricité reste très chère en France, y compris pour les entreprises. C'est vrai, la situation s'améliore par rapport à 2023. D'après l'INSEE, pour les clients industriels, la facture devrait être 20% inférieure cette année par rapport à l'année dernière. Mais même après déduction des aides de l'État, l'électricité reste 84% plus chère aujourd'hui qu'en 2021.
Économie toujours avec le salon du Made in France qui ouvre ses portes à Paris. Près de 100 000 visiteurs sont attendus. Une 12e édition axée sur la réindustrialisation. Et si les fermetures de sites s'accélèrent depuis deux ans, la France continue d'ouvrir plus d'usines qu'elle n'en ferme, assure le ministère de l'Économie. Mais c'est un défi de tous les jours. Exemple dans l'usine de lunettes Chris de Bazinville, près de Paris, où sont produits les verres des montures et où s'est rendu notre reporter Nicolas Feldman.
Donc nous sommes dans l'atelier de surfaçage qui est la première étape de fabrication d'un verre de lunettes.
Tout au début de la chaîne de production, les verres arrivent d'abord sous la forme de petits blocs de plastique rond.
C'est la seule matière qui vient d'Asie et il n'y a aucun producteur sur ces matières premières en Europe aujourd'hui.
Car pour le reste, Christophe Lalot, directeur de l'usine, le revendique. Tous ces verres sont corrigés, protégés, puis taillés sur le site.
C'est vrai que produire en Asie coûte moins cher. Ça fait partie de la réalité de la fabrication en France, d'avoir des charges supérieures. Mais on arrive par l'automatisation à compenser ces surcharges parce que nous maîtrisons la chaîne de valeur et que nous n'avons pas à rémunérer une série d'intermédiaires qui feraient leur marge en plus.
La marque affiche ainsi la certification Origine France garantie qui atteste que plus de la moitié des frais de fabrication de ces verres sont bien d'origine française.
La valeur ajoutée, elle est dans la main-d'œuvre, les collaborateurs et les salaires qui sont payés, l'électricité qui est d'origine française, les machines qui sont en partie d'origine française. Enfin, un impact sur les porteurs de lunettes qui sont aussi très fiers de contribuer au fait de réindustrialiser la France et d'avoir une activité qui se développe.
Une activité en hausse. En mai, l'usine a été agrandie pour augmenter sa capacité de production de 30% à destination du marché français.
Et on laisse nos lunettes pour prendre nos jumelles et espérer voir les bateaux du Vendée Globe, célèbre course à la voile autour du monde. En solitaire, sans escale et sans assistance, elle s'élancera ce dimanche des côtes ouest de la France. Les Sables-d'Olonne, d'où partiront pas moins de 40 marins, c'est un record. Il n'était que 13 lors de la première édition en 1989. Le vent des globes qui entre dans une nouvelle dimension, une dimension mondiale, Thomas Saint-Léger.
Il a fallu s'armer de patience, plusieurs heures d'attente avant d'accéder au ponton, de voir enfin les marins et leurs bateaux. 40 monocoques rutilants d'un peu plus de 18 mètres de long, la flotte la plus importante de l'histoire du Vendée Globe. 40, chiffre maximum, arrêté à partir de 3 critères. Alain Leboeuf, directeur de la course.
Sécurité des marins, visibilité pour les sponsors et lisibilité pour le public de plus en plus nombreux à nous suivre.
Un public plus large aussi, séduit en partie sur les réseaux sociaux où le marin d'aujourd'hui partage ses tranches d'aventure à coups de pastilles vidéo. Clarisse Kremer, deuxième participation au Vendée Globe.
Ça devient vraiment une grosse partie de notre métier en fait, de rendre l'aventure moins égoïste, d'essayer de faire vibrer les autres, quoi, ceux qui n'ont pas la chance d'aller dans les endroits où on va.
Le Vendée Globe, c'est aussi un héritage, une certaine idée de la course entre performance et aventure, une authenticité à préserver pour l'expérimenter. Jérémy Bayou.
Il faut faire attention à garder un côté unique à cette course. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un bon équilibre et pas de chercher prochain coup à être 50 au départ et à laisser les budgets s'envoler. Je pense que ça serait une erreur. Hein.
Pas de limite en revanche pour ceux qui feront le tour du monde. Sur leur canapé, c'est un autre révélateur de l'évolution de cette course. La simulation virtuelle du Vendée Globe fait un carton. Ils étaient plus d'un million à participer lors de la dernière édition. Thomas Saint-Léger, Les Sables d'Olonne, RFI.
Et c'est avec le Vendée Globe que se referme ce journal. Mais restez avec nous, place à notre invité, et pas des moindres.
24 heures en France. Martin Guèze.
Notre invité ce soir qui était au cœur de l'actualité littéraire cette semaine, car il s'agit ni plus ni moins que le prix Goncourt 2024. Kamaël Daoud est sur RFI, récompensé pour son troisième roman, intitulé Houri, publié aux éditions Gallimard. Une fiction qui revient sur ce que l'on a appelé les années de plomb, la décennie noire algérienne entre les années 90 et 2000. Des milliers de personnes qui ont été assassinées pendant cette période. Le roman est raconté du point de vue d'une jeune femme, prénommée Aube, qui échappe miraculeusement à une tentative de meurtre durant son enfance. À 54 ans, le natif de Mesra près d'Oran est au sommet de son art. Kamaël Daoud, qui a répondu à Catherine Frochon-Toussaint, interview sur le vif quelques instants seulement après l'annonce de son prix Goncourt.
Félicitations Kamaël Daoud. Merci. Vos premiers mots?
On n'en a pas dans ces circonstances, on n'a pas de premiers mots. On a des mots qu'on va retrouver par la suite, mais là c'est autre chose. Ça a tellement du sens pour moi, pour les gens qui vont écrire, pour les gens qui n'ont pas la liberté d'écrire, pour les gens qui n'ont pas la liberté de lire, d'acheter des livres, d'en jouir. C'est un pays qui protège les écrivains. Actuellement, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, mettre en valeur un écrivain, un écrit sur la guerre avec des enjeux pareils, c'est quelque chose d'admirable. C'est un prix qui est donné à un écrivain, je ne nie pas, mais c'est aussi, sachant ce que vivent des écrivains de l'autre côté du mur de nos démocraties, c'est un signal fort pour tous les gens qui sont tentés par cette aventure, celle d'écrire et de publier, et de lire aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? J'ai pas de mots. Enfin, j'ai écrit un gros livre. Je pense que j'ai épuisé tous mes mots maintenant.
Comment est né ce livre, Houri?
C'est un livre que chaque Algérien peut raconter. C'est un livre que nous avons tous vécu. C'est un livre qui peut donner du sens aussi à ce qu'on vit dans ce pays-là. Mais il est né parce que je suis venu en France. Parce que c'est un pays qui me donne la liberté d'écrire. Et ça, c'est très important. Je sais qu'on aime faire du French bashing, mais pour moi, ce pays-là, c'est un pays d'accueil pour les écrivains, pour les écritures et tous ceux-là qui viennent d'ailleurs. C'est un pays de liberté. On a toujours besoin de trois choses pour écrire. Une table, une chaise et un pays. J'ai les trois.
Comment est-ce que vous expliquez ce silence autour de la décennie noire en Algérie?
Je ne peux pas répondre. Je pense que c'est quelque chose de tragique. Ce n'est pas facile de parler d'une guerre. Il faut du temps, il faut du deuil, il faut des mots, il faut de la distance.
Et c'est un livre qui justement veut aller contre ce silence?
Non, je pense que c'est un livre qui va aller dans le sens de... Ce n'est pas un livre de guerre, c'est un livre de résurrection. C'est un livre d'espoir. C'est qu'on peut se reconstruire, on peut s'accepter, on peut... J'aime bien ce mot qui est galvaudé mais qui est inévitable, c'est de la résilience.
Qui est Aube?
Toutes les femmes, y compris la femme qui s'est déshabillée dans une université en Iran. Toutes les femmes, partout. Aube, c'est toutes les femmes, ici, dans des quartiers en France, en Iran. Aube, c'est toutes les femmes. Ce n'est même pas moi, c'est toutes les femmes.
Elle vous a été inspirée par quelqu'un?
Par beaucoup. Par beaucoup. On ne peut pas écrire sur une guerre à partir de rien. On écrit à travers ses rencontres, les gens qu'on a rencontrés.
Encore une petite question. Vous parliez de l'importance des livres. Et ici, dans le roman, il y a vraiment un personnage très important qui est le libraire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Et quel est son rôle ici dans votre roman?
Je n'aime pas le roman à symbole, mais ce sont des libraires que j'ai rencontrés en Algérie à l'époque qui font vraiment du sacerdoce. Qui prennent les livres dans des malles, qui prennent les auteurs, qui prennent dans leurs véhicules, qui vont vers les villages, etc. C'est un travail que je trouve admirable. Parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent, ils ne gagnent pas en prestige, en prix, mais ils sont là parce qu'ils aiment bien le livre. Je pense qu'ils sont, dans des tranchées, ils essaient de vivre. J'ai un immense respect et beaucoup d'admiration pour les libraires dans les autres pays que vous devinez, dans certaines géographies.
Et vous pensez que le prix Goncourt, justement, peut leur donner la force de diffuser votre livre à nouveau en Algérie ?
Non, ça ne dépend pas de la force. Ce sont d'autres considérations qui entrent en jeu. L'autorisation de publier, la loi, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais ceci dit, le livre circule, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on ne peut pas interdire un livre. On ne peut plus le faire. Merci.
Merci beaucoup.
Kamel Daoud, prix Goncourt, mais aussi Gaël Faye, prix Renaudot pour son livre Jacaranda. Deux auteurs à retrouver dans la longueur dans Littérature sans frontières. Émission à réécouter sur notre site www.rfi.fr. Culture toujours, direction les planches des salles de spectacle pour une pièce singulière intitulée Cécile et mise en scène par Marion Duval. Écrite pour son amie Cécile Laporte, ce n'est pas une fiction, c'est plutôt une autobiographie. Cécile Laporte qui joue son propre rôle, sa propre vie, une vie hors norme. Et si les sujets abordés sont souvent graves, le rire est aussi au rendez-vous. Muriel Mahalouf nous embarque, elle a assisté à une représentation de la pièce.
Eh ben bonsoir. 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 Ah, vous êtes bien installés, tout ça. Ben go.
Voilà que nous embarquons dans la vie de Cécile, de sa naissance à ses différents engagements. Clown à l'hôpital, animatrice pour personnes en situation de handicap, militante dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes contre le projet d'aéroport près de Nantes, Cécile nous invite ainsi dans sa vie intime et ses convictions. Marion Duval, metteuse en scène.
Pourquoi Cécile ? D'abord parce que j'ai repéré qu'elle faisait du bien aux gens qui étaient autour d'elle. Et puis du coup, c'est très agréable d'être autour d'elle parce que les gens autour sont plus agréables, plus aimables, plus sympathiques. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rendre la France plus sympathique ? En tout cas, faire une tentative. Et puis sinon aussi, parce qu'elle a fait la place dans sa vie à des choses auxquelles moi, j'ai pas fait la place. Et puis du coup, pour moi, lui faire la place à elle, c'est aussi une manière de faire la place à tout ce à quoi j'ai pas réussi à prendre part.
Bon, on se sent bien. Ça tombe bien. Là, en fait, je dois parler plutôt de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, c'est une grosse victoire. Et ça a demandé énormément de lutte pour en arriver là. Et une victoire comme ça, c'est quelque part à ne pas oublier parce que les luttes, elles deviennent de plus en plus compliquées.
Cécile Laporte tient son public en haleine 3 heures durant. Une performance et un tour de force. Entre rires, applaudissements et autres réactions, le public n'est jamais indifférent. L'audace de ce spectacle, justement, est de se déployer bridou coup et de faire confiance au hasard des soirs et des rencontres entre scène et salle.
Et du coup, ça peut prendre pas mal de couleurs différentes. Les points les plus extrêmes, un peu, je pense que c'est... On a eu une classe de lycéens qui était là. Pour certains, c'était peut-être la première fois qu'ils voyaient le spectacle. Et puis, c'était très beau. Et à un moment donné, elle a invité tout le monde à aller danser sur le plateau à un moment. Et puis sinon, il y a eu un autre événement qui était plus tendu. C'était quand à la première, elle a fait un hommage à la Palestine. Et puis, il y a eu des invectives depuis le public en parlant du Hamas et des otages. Puis après, du coup, j'entends des histoires comme quoi, en fait, des personnes qui étaient là et qui ont dit ça ont vécu un moment extrêmement violent. Ça donne matière à réflexion. Comment ça se fait que des gens parlent de la violence qu'ils subissent dans une salle de théâtre qui est quand même relative et trouvent que ça vaut la peine de parler de ça alors qu'on est en train de faire un hommage à des gens qui se battent pour exister.
Marion Duval ou Cécile n'ont en tout cas pas la langue dans leur poche, qu'il s'agisse de politique, d'engagement humanitaire ou de militantisme social. Ça bouscule et ça met en joie.
Un reportage de Muriel Mahalouf, Cécile, pièce de Marion Duval, en tournée actuellement dans toute la France.
Le journal des Outre-mer.
À Mayotte, la grève au conseil départemental est sans doute en voie d'achèvement. C'est à la une de votre dernier journal de la semaine, Benoît Ferrand. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Au grand soulagement, entre autres, des usagers de la barge entre la grande et la petite terre de Mayotte, un protocole d'accord intermédiaire a été en effet signé ce jeudi, quelques heures après l'annonce d'une suspension du mouvement. Explication Raphaël Kahn.
Selon le département, cet accord propose des mesures concrètes pour répondre aux demandes des agents. Il s'agit plutôt d'un calendrier de négociation sur le quota annuel obligatoire de 1607 heures de travail. Un comité social territorial se tiendra mardi prochain sur le sujet. Pas question, en tout cas, de toucher aux jours fériés maorais, selon Ben Issa Ousseni. Sur le versement de primes, une réunion est prévue en janvier. Sur les progressions de carrière, un calendrier de travail sera établi. Certains engagements sont déjà actés. Une enveloppe de 150 000 euros pour du matériel de sécurité, la revalorisation des tickets restaurants et l'inscription du chantier de la cité administrative de Coconi au budget 2025. Le président du département se dit aussi prêt à recevoir chaque délégation d'agents à partir de mardi pour garantir la continuité des discussions et surtout la suspension de la grève.
Un aller simple par avion en direction de la métropole, telle est la solution prônée par le syndicat Force Ouvrière Justice pour désengorger le centre pénitentiaire maorais de Magicavo, lequel centre déborde entre guillemets sur les prisons de l'île de la Réunion qui se retrouvent donc à leur tour très encombré. Le secrétaire général du syndicat, Emmanuel Baudin, demande au gouvernement d'affréter un vol et d'expédier dans l'Hexagone et en priorité les dizaines de détenus qui imposeraient leur loi à Magicavo.
Je pense qu'on est arrivé à un point où c'est plus possible. La Réunion a joué ce qui était normal, la solidarité avec Mayotte. Aujourd'hui, sur Mayotte, on déborde de détenus sur tous les trois établissements. Ça crée de vrais problèmes et on risque aussi de connaître des mouvements sur les établissements de la Réunion. Donc pour moi, il faut effectivement affréter un avion pour pouvoir transférer des détenus en métropole et des détenus bien spécifiques, hein, pas des petites peines. On a aujourd'hui à Mayotte des détenus qui n'ont plus rien à y faire, qui sont condamnés à de longues peines et qui sont à Mayotte depuis des années, qui ont donc bien souvent à la tête des réseaux et gèrent la tôle comme ils l'entendent.
De l'océan Indien, on passe à l'océan Pacifique. Les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, présents en même temps en terre ultramarine, c'est probablement une grande première. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher arrivent ce dimanche en Nouvelle-Calédonie et l'emploi du temps de leur mission de 5 jours s'annonce très chargé. Medjiko Pecheisi.
Les deux présidents des hautes institutions de France vont rencontrer tout le monde. Dès lundi matin, ils seront en province nord avec son président Paul Néaoutin. On imagine qu'ils évoqueront la désertification des médecins de l'usine KNS. Entretien dans la même journée avec la présidente de la province sud, Sonia Bakès. La majorité des communes qui ont subi les violences de mai jusqu'à aujourd'hui concernent sa collectivité. Et puis pour terminer la journée de lundi, entretien avec le président de la province des îles, Jacques Lallier. La situation financière de la pile sera certainement dans les discussions. Mardi matin, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher sont au congrès pour une séance extraordinaire. Ça va durer toute la matinée. L'après-midi, ils sont au Mont d'Or. Il s'agit de vivre ce que les Mondoriens traversent depuis le début de la crise. Ça commence par une traversée en navette maritime aux côtés du maire Eddy Le Courrieux. Ils rencontreront par la suite les habitants de la commune. On ne sait pas encore s'ils se rendront au verrou de Saint-Louis. Également prévu dans leur agenda, des entretiens avec le Sénat coutumier, les deux associations de maires de Nouvelle-Calédonie et puis les partis politiques du pays. On l'a compris, des journées marathon avant de quitter le territoire le lendemain, mercredi.
Un dernier mot, en bref, pour vous signaler l'inauguration ce jeudi d'un nouveau gîte sur le site du volcan à l'île de la Réunion. Plus grande, plus moderne, plus écologique, la nouvelle structure pourra accueillir une centaine de randonneurs, à la grande satisfaction probablement des touristes et des amoureux du Piton de la Fournaise. Fin de cette édition. Bonne soirée, bon week-end.
Merci Benoît Ferrand, excellente soirée à vous aussi et bon week-end, mais restez avec nous. 24 ans en France continue sur RFI.
Le conseil santé avec Sounou Assurance.
Et Caroline Paré accueille ce soir Dr Catherine Billard, spécialiste des troubles spécifiques du langage et des apprentissages.
Dr Catherine Billard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuropédiatre. Comment définir les troubles 10, qu'on appelle aussi troubles spécifiques du langage et des apprentissages ?
Ça représente des enfants qui ont des difficultés dans un des domaines, des apprentissages ou du langage ou d'autres fonctions cognitives, alors que par ailleurs, ils sont intelligents, ils n'ont pas de difficultés ou de pathologies particulières.
Le repérage avant le diagnostic, en général, il s'effectue dans quel cadre ?
Il s'effectue dans le cadre des parents et de l'école, essentiellement.
Est-ce que la rééducation est dans tous les cas pertinente pour des enfants concernés par un ou plusieurs 10 ?
Oui, mais pas seulement et pas obligatoirement.
Et dans quel cas précisément cette rééducation, elle est vraiment indispensable ?
Quand les enfants sont gênés et que les actions préventives, en particulier à l'école, n'ont pas suffi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la frontière des enfants 10 et de l'autre côté la frontière, enfin tous les enfants à développement typique. Il y a un continuum et il y a des actions qui sont préventives, qui suffisent pour guérir l'enfant et donc il n'est pas 10.
Et à quel praticien recourir dans le cadre de cette prise en charge ?
Le praticien paramédical, je dirais, dépend du type de trouble. D'où l'importance, a priori, d'un premier examen par un médecin qui connaisse, qui ait un minimum de formation, ce qui est le cas de pas mal de pédiatres et de certains médecins scolaires.
Merci beaucoup, docteur Catherine Billard. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, émission Questions de femmes, questions de parents. On va parler du sommeil des enfants, acquisition du rythme jour-nuit, sieste, endormissement, développement. Les questions des auditrices à notre numéro WhatsApp, le 33 7 71 18 46 41. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et c'est bien noté, merci beaucoup Caroline Paré et bon week-end, voilà 24 ans en France, c'est terminé, un grand merci à Fabulous Fab à la réalisation, Benoît Solmignac et Théo Renaudon à la préparation et à la rédaction en chef. Dans quelques instants vous retrouverez bien sûr Sylvie Berruet pour la dernière édition d'Afrique Soir. Nous serons notamment à Maurice, où l'on vote ce dimanche pour les élections législatives, tandis que la légende du football algérien Rachid Merloufi nous a lui quitté à l'âge de 88 ans. Mais avant l'info africaine, nous, dans quelques instants, on file à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et la bourse, c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones termine une semaine historique sur un nouveau record, à 44 989 sur un gain de 260 points. Et l'indice du Nasdaq gagne 17 points pour terminer à un autre record de 19 287. Wall Street est convaincu que l'administration Trump, l'an prochain, réduira les impôts sur les bénéfices des entreprises ainsi que les impôts frappant les particuliers. Les investisseurs tablent aussi sur l'élimination de réglementations qui freinent la croissance, voire la stratégie des entreprises. Des valeurs industrielles en profitent bien aujourd'hui, mais le secteur des petites capitalisations, représenté par l'indice Russell 2000, a gagné plus de 8% cette semaine, en anticipation de l'environnement plus favorable issu de l'élection américaine. On note la poursuite de la hausse du cours de Tesla, un gain de plus de 8%, qui porte la capitalisation du constructeur automobile à plus de 1 000 milliards de dollars. Un léger redressement du marché obligataire contribue par ailleurs à la hausse des actions. Aujourd'hui, le rendement du T-Bond termine à 4,30. Le secteur des matières premières, en particulier celui des valeurs minières, est massacré. C'est la réaction à l'absence de mesures fortes de relance par la fiscalité en Chine. L'euro tombe à 1,0718. Le baril de pétrole américain plonge de plus de 2% et revient à plus de 70 dollars. L'ouragan Raphaël est nettement moins menaçant pour les installations pétrolières du Golfe du Mexique. Le Dow Jones aujourd'hui gagne encore 0,6%. Le Nasdaq s'offre moins de 0,1%, mais dans les deux cas, cela suffit pour établir de nouveaux records. Record aussi pour l'indice S&P 500 sur un gain de 0,4%.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Ukraine, Proche-Orient, avec le retour de Donald Trump au pouvoir, doit-on s'attendre à voir triompher la loi du plus fort ? Les deals vont-ils remplacer le droit international ? L'Europe sera-t-elle la grande perdante de l'élection américaine ? À quoi ressemblera le monde selon Trump ? On en débat avec Elisa Schell, Romuald Sciorra et Laurie Kenton.
Géopolitique, Chantal Laureau.
Samedi, à partir de 18h41.
RFI.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Je vous amène aux portes du désert marocain dans les environs de Ouarzazate, précisément dans le village d'Aïd Ben Khadou, pour vous raconter l'histoire de la maison de l'oralité. Patrimoine Amazigh, festival Izourane, je vous propose d'explorer l'oralité et sa modernité au cœur des enjeux de transmission et de mémoire.
Afrique, mémoire d'un continent.
Dimanche à partir de 8h10 TU sur RFI.